pratiques des autres peuples, des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de l'Éternel. Je vais lire Lévitique, chapitre 19, au verset de 1 à 4. C'est dans la version seconde 1910. Je ne sais pas si ça sera la même. Et ça a été écrit presque 1500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'aime bien regarder les dates pour voir où est-ce que ça se situe. L'Éternel parla à Moïse et dit. Vous avez la même chose ?
Ouais.
Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point des dieux de fonte. Et puis la liste des recommandations, je peux vous assurer, quand vous prenez Lévitique, y en a, hein. C'est long, hein. Il y a pour toutes les situations, toutes les configurations, les mises en garde, il y a de quoi faire. Et ça avait pour but, alors on peut dire, oui, de pour plaire à Dieu, certainement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est surtout de permettre à chacun de vivre sainement et sereinement. C'est des mises en garde. Dieu, il sait quand même, hein, il sait les choses, hein, il prévoit tout, il sait où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. Donc les mises en garde, elles sont importantes. Et il en a fait des mises en garde, ça revient. Vivre en plaçant les priorités dans le bon ordre. Vivre à l'abri des occasions de chute et de destruction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a commencé. Donc, soyez saints. Faites attention. Vous devez être saints. Soyez saints. Et pour nous qui lisons la Bible avec un peu de recul, parce que, bon, voilà, ça remonte à assez loin, je disais tout à l'heure, on peut être étonné du manque de gratitude de ce peuple vis-à-vis de l'Éternel. Une nation infidèle. Moi, enfin, perso, quand je lis, par exemple, dans de nombreux livres comme Osée, les mots, ils sont forts, hein, le peuple est comparé à une prostituée. Et puis bien des fois, ben moi je me suis dit que ce peuple, mais c'est pas possible qu'il soit infidèle, inconsistant comme ça, malgré les recommandations. Ça remonte, il retombe. Hein, il remonte et il retombe, il se recasse la figure. Mais c'est que ça tout le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi il y en a... Il aurait pu faire un résumé, parce que pendant tant d'années, le peuple juif s'est ramassé. Bon, c'est expliqué à chaque fois. Pourquoi ? Moi, en tout cas, au départ, je vous le dis franchement, je me dis, mais ça arrive tellement souvent de fois que ça m'agaçait, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Mais ça a du sens. Et ça a du sens parce que quand le peuple tombe, chute, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est petit à petit. D'ailleurs, toujours dans Osée, si on regarde de plus près notre Bible, on peut remarquer que en quelques pages, eh bien, il se passe parfois plusieurs dizaines d'années. Et si on n'y fait pas attention, quand on lit, on se dit, en une semaine, non, ils se sont ramassés, mais c'est incroyable. Eh bien non. Dans le livre d'Osée, ça débute en 785, avant la naissance de Jésus, jusqu'à 725. Donc ça dure 60 ans. Dans ma Bible, c'était en 12 pages, 14 chapitres, c'est court. 60 ans. Donc ça, c'est pas... Et il y a eu des avertissements, il y a eu... bon, voilà, mais le peuple a continué en se disant, jusque-là, ça va, on continue. Oui, les prophètes nous disent attention et tout, mais et regardez, jusque-là, ça va. Et ils continuent. Mais ça nous montre bien aussi la nature humaine, comment nous sommes, comment nous sommes un peu durs à entendre la parole, comment nous sommes durs lorsque nos oreilles se ferment, lorsqu'il y a des recommandations. Alors, imaginons ce peuple conduit par l'Éternel en reprenant par exemple Osée au chapitre 13, au verset 4 à 6. Moi, j'ai pris deux versions, hein, il y a des petites choses qui sont rajoutées parce que j'ai pris aussi la version de Châtel, enfin, il y a différentes. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Alors, on voit bien que c'est dit différemment, mais on retrouve à peu près les mêmes paroles de l'Éternel. Je disais tout à l'heure, 1500 ans avant. Ben voilà, c'est comme ça. L'Éternel redit sans arrêt les choses. Tellement que nous avons des oreilles un petit peu ensablées, comme ça, on n'entend pas bien. Hein. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride, dans le pays de la soif. Et quand ils ont eu de la pâture, ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés. Une fois rassasiés, leur cœur s'est élevé et leur cœur est devenu orgueilleux. C'est différentes traductions, mais ça permet de mieux comprendre le sens. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Une fois rassasiés, leur cœur s'est élevé et leur cœur est devenu orgueilleux. Le peuple d'hier, et par conséquent, nous aussi aujourd'hui, car nous sommes son peuple, on est bien le peuple du Seigneur ? Ouais ? Nous sommes confrontés au temps de notre génération. Et progressivement, petit à petit, nous pouvons nous laisser influencer par notre société. Nous baissons la garde. Nous abaissons notre seuil d'exigence, comme le peuple juif, quand on lit les recommandations, il s'est laissé endormir par la société qui l'environnait, par les peuples auprès desquels il vivait. Alors, deuxième partie, être préservé du mal, c'est ce dont nous avons besoin. Alors, rappelez-vous les paroles de Christ dans Jean 17, versets 14 à 16. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, on va reprendre l'histoire du peuple juif, mais on va s'identifier à eux, hein, comme on a commencé à le faire tout à l'heure. On va se comparer à eux. En règle générale, dans la difficulté, eux, comme nous, je dirais même dans la dernière extrémité, le peuple crie à Dieu. Parce qu'à force de dire « jusque-là, ça va, jusque-là, ça va », et puis ils arrivent près du précipice, et puis jusque-là, ça va plus, ça va plus. Et puis, puis on me pousse derrière, je vais tomber. Là, on est pareil. D'ailleurs, bien souvent, moi, je parle avec des amis, ils me disent « oui, c'est facile, c'est toujours quand ça va mal que les gens ils vont pleurer à Dieu, mais bon, oui, bah oui, parce qu'avant, on n'arrive pas à le faire ». Parce qu'avant, on se croit super costaud, et puis on s'est dit, moi, je gère ma vie tout seul. Je gère ma vie comme je l'entends. Ah, vous aussi, vous l'avez dit, ça, non ? Hein ? Allez, si, vous l'avez dit aussi, à un moment donné, je vais gérer ma vie tout seul. Mais on a besoin d'Éternel. Oui, vous n'osez pas vous dire, non, non, ça va, non, moi, j'ai toujours écouté Seigneur. Ouais. Mon œil. Hein ? Alors, ben, Dieu, avec compassion, relève son peuple et lui permet de vaincre ses ennemis. Et alors, les hommes et les femmes acclament le Seigneur pour ses bontés. Et le peuple se pose, du coup, il s'installe et prospère. Alors, je le fais en raccourci, mais bon, vous vous imaginez, vous avez lu la Bible, vous savez un petit peu comment les choses se passent. Et là, du coup, bah, ils reprennent confiance et ils continuent à louer l'Éternel. Ouais, super. Et puis, dans les champs, on peut de nouveau planter, et puis on peut de nouveau prospérer. Et puis, et voilà, et ça redémarre, et ça redémarre. Ça met des années, des années, des années comme ça. Et là, c'est une nouvelle phase de lune de miel. Parce qu'ils redécouvrent, en fait, l'Éternel. Et puis, ils se repentent de cette fourvoyée que leurs pères et les générations avant ont fait n'importe quoi. Et qu'eux en ont subi les conséquences par la suite. Et donc, ben, ils se repentent de tout ça, ils demandent pardon à l'Éternel. Et l'Éternel bénit. Donc, c'est une nouvelle phase de lune de miel. La fusion. Une proximité. Dieu est... Dieu, il est vraiment... Il représente tout pour le peuple à ce moment-là. Que ce soit pour le peuple, mais pour chaque individu personnellement. Alors, je vais utiliser la première personne du singulier pour me mettre à leur place. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, ben, je vois ce que Dieu me donne et m'apporte. La sécurité, des biens, la paix, une nouvelle vie qui s'ouvre. Alors, ben oui, dans ces moments-là de lune de miel, on peut être un peu dans l'idéalisation. On peut même dire, ouais, Seigneur, je serai toujours avec toi, Éternel, je serai toujours avec toi. On proclame des choses comme ça. J'aperçois la bonté, la perfection de Dieu. Dans ces moments-là, il y a une telle proximité, on vit des choses fortes. C'est le temps aussi d'un retour sur la parole de Dieu. C'est vraisemblablement ce que nous vivons dans les périodes du baptême, quand on se tourne vers le Seigneur, hein, puis dans des périodes de réveil personnel, des moments où on réalise que je disais tout à l'heure que quand je, personnellement, moi, quand par moment j'ai voulu être un petit peu orgueilleux, un peu fier, et j'ai voulu mener ma vie tout seul, sans le Seigneur, dire c'est bon, ça y est, j'ai compris, maintenant je taille la route et je fais comme je pense, sans demander au Seigneur, sans demander ce que lui il veut pour moi, sans lui demander la route, ben moi je me suis ramassé hein, quand même bien des fois. Parce que je suis long à apprendre, il faut croire, hein. Vous, peut-être que ça va aller plus vite, hein, je l'espère, hein, mais moi, ça, c'est long. Il a fallu que je tombe pas mal de fois avant de me ressaisir. Mais à chaque fois, c'est des phases de réveil personnel où le Seigneur, il est là. Il vient, il me dit, mais hey, je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Car elle nous partageait tout à l'heure des moments difficiles qu'on peut traverser de dépression, d'avoir pour certains des idées noires, pour ne pas dire des envies de suicide, ça c'est des choses qui arrivent parce que l'adversaire il est là, il veut vraiment nous anéantir. Et puis l'Éternel il arrive, mais hey, t'es mon fils, t'es ma fille, t'inquiète pas, je suis là, je te tiens la main. Toi tu m'as peut-être lâché la main, mais moi je suis toujours là auprès de toi et puis je veux te relever. Et il le fait, il l'a fait dans ma vie. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est ça, il le fait, il nous relève, il nous prend par la main. C'est des temps merveilleux où on se dit, mais comment j'ai pu faire à un moment donné pour baisser la garde comme ça? Mais le temps passe. Les mois, les années et le quotidien prend une place plus importante. Alors, ben oui, la fougue de la lune de miel, ça laisse la place à une possible routine, du relâchement. Je me décentre un peu de Dieu, petit à petit. Je regarde autour de moi. Je prends moins de temps avec Dieu. Je néglige ma relation avec Dieu. Alors, je me permets de dire « je », mais vous pouvez vous identifier parfois à ça. Je mets « je » parce que je l'ai vécu. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple juif, quand nous lisons la Bible. Rappelez-vous les paroles de Dieu. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés. Une fois rassasiés, leur cœur s'est élevé, leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Ouais, le risque est là, l'adversaire profite de ces temps de relâchement pour nous tenter à nouveau. Tu as vu comme la vie est dure, prends un peu de plaisir, nous dit l'adversaire. On n'est plus dans les temps reculés, il faut vivre dans ton temps là maintenant. Là. Oh, la Bible c'était dans le temps là, ressaisis-toi, l'Ancien Testament, si c'est marqué ancien, c'est ancien. Aujourd'hui on vit dans des choses nouvelles, ouais. L'adversaire nous parle aussi comme ça. Et puis, il n'y a pas que le travail dans la vie. Hey, profite aussi. Ouais. Pour chacun, l'adversaire, il fait toujours de la même façon. Nous, est-ce que Dieu a bien dit que... Mettre le doute. Mentir. Et si on n'est pas solide dans la foi, si on s'est relâché, du coup on est moins solide, eh bien on se laisse contaminer. On se laisse contaminer par le monde qui nous entoure. Et puis on se trouve des excuses qui sonnent bien ou pas. Ouais, Seigneur, tu m'as donné un travail trop prenant, exigeant, j'ai plus assez de temps pour passer du temps avec toi, mais bon, voilà, dès que j'aurai un peu, ça va se relâcher, je reviendrai. Non. Moi, j'ai fait l'erreur, hein, une fois de plus, mais je ne suis pas le seul à se laisser prendre par le temps et avoir des fausses bonnes excuses. Non, mais je ne peux pas ouvrir ma Bible ce matin, je me suis levé, je suis un peu à la bourre, je vais prier en allant au travail en voiture. Mais c'est bien, c'est bien. N'empêche que tu n'as pas lu ta Bible ce matin. Tes temps personnels que tu passais avec le Seigneur, ben, tu les as plus, tu les enlèves. Une fois, puis deux fois, puis trois fois. Il y a quelques temps de ça, je disais, mais même pendant les vacances. Waouh, c'est relâche, c'est les vacances, je pars en vacances. J'emmène ma Bible, parce que quand même, pour être sérieux, je dans mes bagages, j'emmène ma Bible. Sauf que je ne l'ouvre pas. Pendant toute la durée des vacances, c'est n'importe quoi. Bon, je me suis ressaisi, hein, vous inquiétez pas. Hein, maintenant, je l'emmène et je l'ouvre, même pendant les vacances. Mais pour dire qu'on peut avoir des fausses bonnes excuses ou des idées préconçues, se dire c'est les vacances, hop, voilà, on laisse tout tomber. Ou alors mon boulot il est prenant, ou parce que j'ai des choses à faire, ou j'ai du bois à couper, ou j'ai du. Enfin bon voilà, il y a plein de choses à faire. Mettre le Seigneur en premier. Combien de fois on l'a dit? Combien de fois vous l'êtes dit? Combien de fois on se le dit mais on passe à côté? Voilà, donc ça peut même aller jusqu'à la révolte, de dire, je me souviens de personne qui disait, mais Dieu ne me répond pas, ça ne sert à rien, bye bye, je m'en vais, je laisse tout tomber. Ça peut aller jusque-là. D'autres avec le recrut d'indépendance, mais c'était mieux avant quand même, j'avais des copains, je profitais de la vie, là je profite de plus rien, j'ai l'impression de m'en croûter, mais c'est l'adversaire qui parle, qui susurre des choses comme ça à l'oreille. Pourquoi je ne profiterai pas de la vie comme les autres? Ah, je me souvenais dans un film, je n'ai pas tout compris, j'ai vu plusieurs fois, Matrix, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce film-là, ça date un petit peu, et il y a un rebelle qui se rend à l'ennemi parce qu'il en a marre de se battre, et il lâche ses amis, pour ne pas dire plus, et pour une fausse vie faite de rêves artificiels. Il se retrouve là, allongé, branché de partout, en état... de coma, de rêve artificiel, Et lui, dans sa tête, il vit. C'est comme s'il vivait des choses formidables dans sa tête. Mais son corps, il est quasiment mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Mais ça me faisait penser à ça. D'être dans l'illusion d'une vie qui peut être chouette dans le monde. Et en fait, c'est la mort qui est assurée derrière. En trois, le remède, faire un pas de foi. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, excusez-moi de ne pas abîmer le matériel, eh bien, une fois qu'on prend conscience que si c'est marqué autant de fois dans la Bible, c'est que ces choses-là arrivent et arrivent et arrivent encore. Et que nous, aujourd'hui, eh bien, ça nous arrive aussi. On peut être dans des phases différentes. On peut être dans des phases de lune de miel, des phases d'euphorie, des phases de chute, des phases de découragement, des phases de rejet, des phases où on veut faire tout seul. Toutes ces phases-là, si c'est marqué dans la Bible avec autant d'insistance, c'est parce que ça nous arrive encore aujourd'hui. Donc il faut en prendre conscience. Et alors là, oui, le remède, c'est faire un pas de foi, c'est se ressaisir. De retourner dans cette phase de coopération avec Christ. La prise de conscience, se rappeler les paroles de Jésus, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est fort ça quand même, il ne faut pas passer à côté. On n'est plus du monde. Alors il a prié qu'il ne fallait pas nous ôter du monde. On reste dans ce monde, avec plein de choses qui nous environnent et qui ne sont pas forcément toujours terribles. On est dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, faire un pas de foi. Il y a un prophète qui avait eu un petit mot pour moi, me dit, tiens, la situation de Martin Luther King. Et donc, je suis allé voir, parce que je ne me souvenais plus exactement. Il y a avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Moi, j'aime bien. On ne sait pas où est-ce qu'on va avec le Seigneur. Mais de toute façon, on sait que ça va être bien avec le Seigneur, qu'on vit des belles choses. Alors, il faut faire un pas. Et faire un pas, ça veut dire que je ne laisse pas mes pieds comme ça, l'un à côté de l'autre. On se met en mouvement. Il dit aussi, faire le premier pas sur le chemin de la foi. Faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le premier pas. Un pas après l'autre. Pas se soucier, mais où est-ce que je vais mettre mon deuxième pied après? Est-ce qu'il y a encore une marche? Est-ce que faire un pas à la fois? Se remettre en mouvement, comme je disais, pas rester les deux pieds dans le même sabot. Se remettre en mouvement pour Christ, afin de se dégager de notre situation terrestre pour vivre dans une dimension céleste. Ça demande de la volonté. Faire de nouveau ce premier pas ou ce pas suivant. Ça demande de faire des concessions, dans le sens de perdre ce qui n'a pas d'importance, ce qui est futile, ce qui est du monde, pour garder ce qui a de la valeur. Christ. Je le précise, mais c'est clair pour tout le monde. C'est ça qui est important. Et replacer nos préoccupations sur l'échelle de nos valeurs. J'avais raconté, je crois que c'est au mois de novembre, qu'en fait, mon boulot, il prenait une telle place dans ma vie que je le plaçais vraiment très haut. Et j'en attendais de la gloire, j'en attendais de la reconnaissance, j'en attendais plein de choses. Et du coup, avec Christ, je me mettais en dessous. Ça paraît incroyable. Et pendant des années, je me suis fourvoyé, j'ai fait cette erreur. Donc il faut replacer nos préoccupations sur l'échelle de nos valeurs. Où est-ce que je place Dieu? Où est-ce que je place Christ dans tout ce que je fais? Se reconnecter avec la parole de Dieu. Louer, adorer, aimer Dieu. Se reconnecter, certains vont dire, mais moi je lis la Bible, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne t'ai pas attendu pour ça. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'elle produit chez toi quand tu lis la Bible? Est-ce qu'on loue par habitude? Est-ce qu'on lit par habitude? Ou est-ce qu'on cherche l'enseignement? Est-ce qu'on cherche la face de Dieu? Est-ce qu'on cherche qui il est et ce qu'il veut pour nous? Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et des difficultés, des tentations, il y en a. Avoir ce réflexe de se tourner toujours vers Jésus. Oui, certains se diront, mais je vis déjà cela, je lis la parole et prends du temps avec Dieu. Alors, j'ai envie de dire, es-tu prêt du coup à monter sur la deuxième marche? Parce que d'avoir fait ce premier pas de foi, c'est bien, et de faire ce que le Seigneur nous demande, et d'avoir fait un premier pas, mais je suppose qu'il ne nous dit pas de rester sur la première marche. Alors du coup, j'ai envie de dire, ben, vis-tu conformément avec toute la parole. Regardes-tu les autres avec les yeux du Seigneur, par exemple? Aimes-tu les autres comme Dieu t'aime? Écoutes-tu Dieu ou ta propre voix? Fais-tu tout ce que Dieu te demande? D'ailleurs, il y a une connexion avec le connexion. Vous pourrez lire le connexion, je l'ai lu hier soir, et je trouve qu'il y a vraiment des choses en rapport. Et dans Matthieu 26, au verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Encore une recommandation. Il ne faut pas faire comme si... non, c'est une recommandation, parce que c'est vrai. Et pour vivre ça, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la chance d'être dans une église, une communauté. Appuyons-nous les uns sur les autres. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pas rester tout seul avec ces difficultés. Il faut s'entourer les uns les autres. Jacques 5, versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez-les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, je vous le redis encore, mais c'est vrai que on est dans une communauté où on a vraisemblablement plaisir à être ensemble les uns avec les autres. On voit bien d'ailleurs le dimanche matin, là, on se fait la bise, on se cause, comment vas-tu? Tiens, au fait, il faut que je te parle, et puis tiens, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Et à ce moment-là, il y a Bernard qui dit, est-ce que je peux vous lire un passage de la Bible? Et puis tout le monde est là, attends, j'ai pas fini, viens que je te fasse un bisou. Et c'est qu'on a quand même plaisir à se retrouver, et tant mieux, c'est chouette, c'est important. Il y a de la communion fraternelle. Bon, il y a des fois ça frite un peu. Bon, il y a des fois ça accroche un peu. Parce qu'on n'est pas tous sur le même moule. On n'est pas tous. On aime Jésus, c'est ça qui nous rassemble. Mais on a des vies différentes. Et du coup, on a besoin d'apprendre à aimer l'autre comme Dieu nous aime. On a besoin d'apprendre à regarder l'autre comme Dieu nous regarde. Et on a tellement besoin d'évoluer dans tout ça. Mais il y a de bonnes bases. Heureusement. Alors, mais quand on est en grand groupe comme ça, et même le dimanche matin, on n'a pas le temps de voir tout le monde et de parler avec tout le monde et tout ça. Alors, vraiment, moi, je vous invite à, pour ceux qui n'ont pas encore de groupe de maison et qui essayez, allez voir des groupes de maison, allez rejoindre des groupes de maison. Et s'il n'y en a pas dans votre coin, dans, je ne sais pas, suivant où est-ce que vous habitez, mais mobilisez-vous et puis créez un groupe de maison, même si vous n'êtes que 3, 4, 5, c'est super. Déjà, ça peut vous démarrer des choses. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va en parler bientôt, effectivement, des groupes de maison, mais moi, vraiment, ce qui m'interpellait quand j'ai lu tout ça, c'est que, et que j'ai préparé ce message, c'est que le risque de chuter est toujours présent. Le monde dans lequel on vit n'est pas facile. Et on a besoin de s'encourager les uns les autres. Et personnellement, dans ce que je vis avec mes frères et sœurs, dans le groupe de maison, je les regarde, je les salue. Parce que c'est important ce qu'on vit ensemble. On n'est pas toujours d'accord. Mais on s'aime. Et puis on parle. Et puis on s'explique. Et puis même quand il y a des... J'allais dire des... Comment on peut dire des... Des coups de... Quand on s'accroche un peu fort. Et bien, à un moment donné, on revient. Et puis on se demande pardon. Et puis on avance comme ça. Mais c'est vache, c'est riche. Et moi, je vous invite à découvrir ça. Et à créer de nouveaux groupes de maisons. Parce que du coup, cette proximité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'on arrive à mieux se connaître les uns les autres. Et quand on se connaît mieux, on peut mieux s'entourer. On peut mieux prier pour les uns et pour les autres. On s'enrichit mutuellement. On n'est pas plus haut l'un que l'autre. On est des frères et sœurs en Christ et on s'encourage les uns les autres. Et ça, c'est hyper important. Et ça peut être vraiment un bon moyen pour pouvoir justement ne pas rester dans les difficultés, dans l'adversité. Éviter le plus possible le risque de chuter. Parce que du coup, il y aura toujours le frère ou la sœur qui dira « Mais, hey, qu'est-ce que tu fais? Attends, mais non, on est là, on va prier pour toi et pour s'encourager les uns les autres. » Alors, pour moi, il y en a certainement d'autres, mais c'est un très bon moyen. Alors, rejoignez, créez des groupes de maison, rassemblez-vous pour vivre des choses fortes ensemble. Et ce n'est pas facile. Je peux vous l'assurer, c'est pas facile. Alors vous dites, attends, tu veux nous encourager et tu commences par dire c'est pas facile. Ah bah ouais, non mais je veux pas vous mentir, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que c'est riche. Mais tout ce qui en ressort, ça nous fait grandir. Le fait de ne pas être d'accord avec les autres, ça peut être frustrant. Mais du coup, ça permet aussi de se remettre en cause. Est-ce que c'est moi qui ai toujours raison? Est-ce que ma façon de penser est toujours la meilleure? Non. C'est important d'écouter les autres. Je les montre, ça, à chaque fois, ils sont là. Et ben oui, c'est important. Et aussi, se remettre en cause. Ah tiens, ouais, je me souviens quand tu m'as dit ça. Ben, effectivement, ça a mis du temps, mais maintenant, ça porte. Maintenant, ça a pris du sens chez moi. Et bim, et on avance comme ça. Waouh. Alors, ben oui, Dieu est bon. Ben ouais, Dieu est bon. Il nous donne les moyens pour pouvoir vivre le chemin avec lui. Il nous donne le moyen pour nous encourager. Il nous donne les cartes, il nous donne sa parole. Il nous donne des frères et sœurs. Alors, vivez pas tout seul. Allez, bon, j'arrête là-dessus. Soyez bénis par le nom de l'Éternel.
Merci. Avant de chanter un dernier cantique, merci. Ne vous étonnez pas si Francine n'est pas là, elle est partie pour 2 mois à Madagascar.